22, Kafbet, page Ayn Hey.
Ah,
page Ayn Hey. OK?
Right. Yeah. Ish.
Esh.
Ash.
Voilà. Ayn Hey.
Retrouvé. Pourquoi tu vois Esh dans Ayn Hey?
Non, le premier mot de la.
Le premier mot.
Ah. D'accord. Non, je crois que c'est tout.
Bon, alors, on est bon? Amen. Aïn, hey. C'est ça. On est bon? Non, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin. On est bon? Alors,
ça fait plaisir. On a vu en France, ils ont fait une afghana pour les 100 jours de.
Ouais. Nous, pour le retour à la maison de nos otages. Amen.
Amen.
Esh a ahava ativit le uma ou le triata. ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל, ועל ידי ארץ ישראל, תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל תואר האמונה בעוצם חסנה וגבורתה. דילו רב קוק, היא פוסידי, זה פנטסטיקה. נו, טלפון, פסיר כלבו. Nous sommes les esclaves de notre technologie, c'est fantastique. Fantastique. Enfin bon.
Il est tombé combien de fois?
Je sais même pas. Ah non, comme ça, du jour au lendemain. Enfin bon, d'autres choses. Donc, Eshava Ativit. Il y a un feu d'amour pour le peuple juif et sa résurrection. Eh bien, nous dit le Rav Kook, cette volonté de redevenir un peuple et tout ça. Ce feu, il brûle en Eretz Israël et par Eretz Israël. C'est-à-dire, ça aussi c'est intéressant, comment ça se fait qu'on n'a pas eu une motivation comme ça de recréer un peuple en Pologne ?
Il faisait froid.
Alors, il faisait froid, certes, mais les Ashkenazim aiment le froid.
Ouais.
Comme tu sais, quand les Ashkenazim reçoivent des médicaments, ils les mettent dans la poche de la chemise ici. Parce qu'il y a marqué sur la boîte qu'il faut les garder dans un endroit froid et sec. Donc on les met à côté du cœur. C'est bien connu. Quoi ?
Pas très gentil.
Un peu d'autodérision ne peut pas faire de mal. Bekitsour, non mais... Et bien sûr. Maintenant, quand on était en Pologne, il y a eu, après la Première Guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il y avait une volonté nationaliste qui était très importante, et les Juifs avaient même une représentation au parti polonais. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas dit, tiens, on va faire un peuple dans le peuple, on va faire un petit état juif dans la Pologne, là-bas, quelque part, dans les montagnes.
Il y a eu un état juif.
Il y a Staline qui a voulu faire le bureau du camp.
Ouais,
mais c'est pas les Juifs qui ont demandé.
Herzl qui a voulu.
Ça, c'est autre chose.
Herzl qui a voulu l'Ouganda.
Herzl n'a absolument pas voulu l'Ouganda.
Arrêtez
de falsifier l'histoire.
Il n'a pas dit l'Ouganda.
Arrêtez de falsifier l'histoire. Les Anglais, alors qu'il y a eu le pogrom de Kishinev en 1903, qui a fait 42 morts et 500 blessés, Herzl vient voir les Anglais en leur disant « on ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible, mon peuple il meurt en Russie, il faut faire quelque chose. » Et les Anglais lui disent « qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La Palestine, ce n'est pas à nous. C'est encore à l'Empire ottoman, on ne peut pas... On peut rien faire. À la limite, on a une colonie en Ouganda, si tu veux, et là. Et donc, ce n'est pas Herzl qui veut l'Ouganda. On lui propose l'Ouganda et il amène cette proposition devant le congressionniste. Maintenant, lui, il vote pour parce qu'il dit on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il y a urgence. Et ça ne marche pas pour l'instant, Eretz Israël. Donc, on y va. Et Baruch Hashem, il y a une majorité de non-religieux aux congressionnistes parce que les religieux, ils votent pour l'Ouganda. Et les non-religieux, ils votent contre l'Ouganda.
Ah bon,
et heureusement qu'on avait une majorité de non-religieux. Comme ça, on n'a pas été en Ouganda. Même si, Bon, Ouganda, ça aurait pu être sympa, on aurait pu faire des safaris sympas, le lac Victoria, tout ça, il y a quelque chose à faire.
Mais, ils n'étaient voilà. pas tellement très gentils, les Ougandais.
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais peut-être qu'ils étaient, non, en fait, peut-être qu'ils étaient très très déçus qu'on ne soit pas venus. C'est pour ça qu'ils nous ont fait ce qu'ils ont fait à Entebbe. Hein?
Heureusement que ce n'est pas en Ouganda.
Bon, mais quitte, heureusement que ce n'est pas en Ouganda. Mais tout ça pour dire que les Juifs auraient.
On aurait eu un procès plus tôt,
hein?
On aurait eu un procès plus tôt.
Certainement. Certainement. Maintenant, les. Le peuple juif aurait très bien pu s'organiser une dimension nationale ailleurs. Ben non. Il semblerait que lorsqu'on est ailleurs, eh bien, il n'y a pas ce feu dévorant de la nation d'Israël. Et donc, il te dit, ce feu dévorant d'amour pour la résurrection nationale qui a eu lieu en Eretz Israël et par Eretz Israël. C'est parce qu'on était là que tout d'un coup, on s'est réveillé à plein de choses. C'est-à-dire, c'est parce que tu es là que quand tu fais... par exemple, je ne sais pas moi, des travaux pour faire des toilettes. Ron, tu fais le musée de l'héritage de Menachem Begin. Et tu vas faire des travaux parce que tu veux faire des toilettes pour le musée. Et quand tu commences à pelleter, eh ben, tu te rends compte qu'il se passe un truc. Et donc tout s'arrête. Et parce que comme à Jérusalem, quand tout s'arrête, c'est parce qu'il y a un truc archéologique. Et donc, on commence à fouiller. Et on amène Gabi Barkaï. Gabi Barkaï, un des grands, pour ne pas dire le plus grand fouilleur de Jérusalem. Et il commence à fouiller. Et il trouve, c'est manifestement une Meharat Kvoura. C'est manifestement une grotte sépulturienne. Et il commence à fouiller, machin. Et il fait passer une moda. Je fais passer un message dans le journal disant que s'il y a des écoles qui veulent participer aux fouilles, bah, elles peuvent venir aider. Il y a une école, si je ne me trompe pas, de Mevaseret Sion qui répond favorablement à l'annonce. Les équipes vont leur donner des consignes très claires, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, machin. Et puis, Gabi Barkaï lui dit, tiens, tu prends ça, voilà, un pinceau, là-bas, on n'a pas encore fouillé, il y a aussi une autre grotte, débrouille-toi, allez, vas-y. Ouh ! Et toute l'équipe est concentrée sur le vrai endroit. Et puis au bout de quelques, je sais pas, 10, 15 minutes, le Noudnik, il revient chez Gabi Barkaï et lui dit, s'il te plaît, j'ai trouvé un truc. Il dit, non mais j'ai déjà dit, toutes les choses que vous pensez que c'est, il y a un seau là-bas, mettez là-bas, on vérifiera plus tard. Il dit, non mais je pense que là, j'ai vraiment trouvé un truc. Et bon, quoi ? Et il lui montre un crâne. Pas un petit... un crâne. Et là, alors que lui, il n'avait rien trouvé encore, l'archéologue. Et là, il se dit, ok, on arrête tout, on va voir là-bas. Et il a trouvé, ce petit jeune, la plus grande Meharat Kvoura. Et on fait descendre des gens dedans, parce que c'est très profond. Et on descend dedans, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas un crâne, mais il y a près de 80 personnes, au final, qui ont été trouvées, des squelettes entiers. De près de 80 personnes, Meharat Kvoura incroyable, et avec tous leurs effets personnels. Puisque à l'époque, on enterre avec les effets personnels. Et puis tout d'un coup, on sait qui sont ces gens-là. Eh oui, et on sait comment ils sont morts. Puisque on retrouve avec les ossements des têtes de flèches babyloniennes. Parce que comment ça marche quand on enterre ? En fait, quelqu'un meurt. Aujourd'hui, vous savez que quand quelqu'un meurt, on va lui faire la tahara. La tahara, ça n'a rien à voir avec la pureté.
Sauf pour les chayalim.
Non, ça n'a rien à voir avec la pureté. Même pour les chayalim. La tahara, c'est on nettoie le mort pour lui donner du kavod. Ouais, okay, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand lo alenu ve lo alechem, il y a des morceaux de... Pas du sang, le sang on nettoie, mais il y a des corps étrangers qui sont à l'intérieur du corps. Comme des balles, comme des poignards, comme ça. Alors, quand tu peux enlever sans que ça endommage le corps, alors tu le fais. Mais quand tu peux pas enlever sans endommager le corps, tu le laisses dedans parce qu'on veut pas manquer de kavod au corps. Donc, pareil pour les têtes de flèches babyloniennes qui étaient faites d'une manière très, très ingénieuse puisque ce sont des têtes qui sont pointues au bout mais qui ont des crochets intérieurs comme ça sur le fond. Comme ça, une fois que la flèche, elle est pénétrée, tu peux pas la sortir. Ou alors, faut tout arracher. Donc, on laisse les flèches dedans. Au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous savez bien, ben voilà, c'est, bon, il s'est éteint, il a décidé qu'il n'aimait pas. Et, j'aime pas ça.